c'est donc juin 2026. Et puis, on sait bien n'importe comment que le cinéma est sous influence. Il n'y a pas de problème. Bon, maintenant, évidemment. Mais l'article est très bien parce qu'en même temps, il est très critique. Et il essaye, d'abord, ils ont mis un dessin avec un amplificateur où, en fait, l'amplification du cinéma. Et tout en haut, il y a le sigle du dollar. Donc, on en reparlera. Je pense que c'est vraiment quelque chose. C'est un article qui a été écrit par Thelma Susbiel et Oriane Hidalgo Laurier. Donc j'espère qu'elles me pardonneront de citer à la va-vite un peu leur article, mais c'est un article effectivement extrêmement intéressant. La semaine prochaine, on parlera évidemment cinéma avec un film que j'ai beaucoup aimé qui s'appelle Shana. C'est un film de Lila Pinel avec une comédienne qui, à mon avis, va faire beaucoup de choses parce que elle déplace vraiment incroyable. Elle est incroyable comme fille. Et puis un autre film dont j'attendais beaucoup mais qui m'a peut-être un tout petit peu déçue, c'est La Baleine et le musicien. C'est un film de Valentin Paoli. C'est un film que ce que j'ai aimé, c'est qu'en fait, si vous voulez, c'est la communication entre les baleines, notamment les baleines à bosse, avec un musicien, et il y a des possibilités de communiquer justement avec ces baleines. Et c'est une expérience que j'avais connue aux États-Unis, à Seattle, avec un ami musicien qui justement, lui, communiquait avec, non pas des baleines, mais avec d'autres poissons comme ça, des grands poissons, et c'était avec, je crois que c'était les marsouins, etc. Et c'est vrai, c'était vraiment très beau, parce qu'en fait, les sons qu'ils utilisent sont des sons absolument magnifiques. Il y a un langage des baleines à bosse, un langage des dauphins, etc., etc. Donc, il y aura ces deux films, et il y aura quelque chose que je voulais faire depuis longtemps. C'est un livre d'Hubert Guillot qui a été publié à la Fabrique, et donc Hubert Guillot viendra nous parler de son film. Le titre, là, vous allez être intéressé, c'est Les algorithmes contre la société. Voilà. Donc la semaine prochaine, c'est tout ça. Puis il y aura peut-être des petites choses qui vont s'ajouter si on a du temps. Et je voulais vous signaler également, puisqu'on est là, que le Luxor à Paris, eh bien, en général, après Cannes, fait toujours des avant-premières, des films qui ont marqué, etc. Je vous rappelle que le Luxor, c'est à Barbès. Et il faut voir, aller sur le site et vous allez voir quand même pas mal de choses. Vous savez, ils font vraiment, il y a plusieurs salles de cinéma qui sont, je trouve, importantes parce qu'elles défendent quand même des films d'auteurs. Donc il y a le Luxor, il y a aussi le Balzac et encore d'autres. Et puis évidemment aussi en ce qui concerne au quartier latin, il y en a quand même plusieurs. Donc c'est quand même des choses qu'il faut dire et qu'il faut signaler, puisque c'est grâce à ça qu'on ne voit pas que des films, vous voyez là, les gros machins, là, voilà, on voit autre chose. Bon ben là-dessus, je vous dis très très bonne semaine. Et bien sûr, comme d'habitude, eh bien, tenez bon.
Radio Libertaire 89,4 MHz de Soutsène, magazine de créatures radiophoniques. Nous sommes ensemble pour une heure et demie. Une heure et demie, c'est le temps pour votre cœur de pomper 500 litres de sang, soit l'équivalent de deux baignoires. C'est le temps pour un paresseux, aïe, une eau si on fait des mots fléchés en pleine forme, pour parcourir 360 mètres, donc faire le tour d'un stade de foot, ce qui prouve que le paresseux, l'aïe, l'une eau, est aussi con qu'un joueur de foot, mais moins con qu'un supporter de foot. Une heure et demie, c'eût été le temps pour Jacques Chirac de tromper 18 fois Bernadette. Jacques Chirac avec son surnom de 5 minutes douche comprise. Une heure et demie, c'est le temps en France de déclarer 73 nouveaux cancers, 20 femmes violées, 27 enfants maltraités et donc 47 bons hommes plus ou moins cons. De une heure et demie, c'est le temps aussi pour que 2 millions d'œufs soient consommés en France sous diverses formes, c'est-à-dire 143 tonnes, dont 14 tonnes de coquilles, ce qui n'est strictement rien face aux 2400 tonnes de plastique produits en une heure et demie. De Soutsène, nous sommes ensemble pour une heure et demie et évidemment, comme à l'accoutumée, pour entamer cette émission, quelques petits « je me souviens ». Je me souviens qu'en 2008, Bachar el-Assad a assisté au défilé du 14 juillet à Paris, aux côtés de Nicolas Sarkozy à la tribune présidentielle. Je me souviens de l'expression des cours d'école « on se fait la taille », signifiant qu'on se collait dos à dos ou dos au mur pour comparer nos tailles respectives, le plus grand étant toujours alors considéré comme le meilleur. Je me souviens que ces gens qui m'avaient dit un matin en arrivant au lycée Poutine a fait buter Anna Politkovskaya dans son ascenseur. Je me souviens de « Entre chien et loup », discuter entre la poire et le fromage, être entre la vie et la mort, lire entre les lignes, naviguer entre deux eaux, boire de l'antre de mer, finir entre quatre murs ou entre quatre planches, être toujours entre deux trains ou entre deux gares, régler ça entre midi et 14 heures, coincer quelqu'un entre quatre yeux et signer un traité entre deux portes. Je me souviens des pas mal de barons. Je me souviens que dans les journaux, le baron en pain n'avait pas de prénom, juste un titre collé à son nom et un petit doigt découpé pour la rançon. Je me souviens que Ernest Antoine Sellière avait toujours son double prénom, son titre de patron du MEDEF, et quand les journalistes voulaient éviter des redites, il devenait le baron tout court, avec des jolis guillemets dans le canard. Je me souviens que Coubertin, quand il n'était pas stade mais auteur de citations, avait droit à la totale « le baron Pierre de Coubertin ». Je me souviens que dans les champs de bataille des livres d'histoire traînaient quelques barons avec un titre et parfois des noms imprononçables tels que celui du baron de Thunder-Tenskrunch chez Voltaire. Je me souviens aussi du baron rouge tout court dans une BD sur les aviateurs de la Première Guerre mondiale et du baron noir en strip dans Le Matin de Paris et de celui de Munchausen chez Terry Gilliam. Je me souviens que le baron Haussmann a un boulevard mais pas de prénom. Et je me souviens aussi d'ailleurs de Marie-Françoise Le Baron en 3e B. Si je me souviens d'elle, c'était pour ses boucles plutôt que pour quelques titres de noblesse. D'ailleurs, elle ne devait tenir son nom que d'un lointain ancêtre qui avait dû se l'auto-attribuer. Le père, le baron, était agent d'assurance et la mère, le baron, dame de service à la cantine. Le seul privilège de Marie-France était d'avoir discrètement une deuxième coffrette triangulaire au chocolat ménélique. Je me souviens que quand je me réveillais au milieu de la nuit, à 5 ans, j'avais peur des bruits, des formes, de certains objets, et j'avais envie d'appeler ma mère. Alors j'attrapais la couverture et je la mâchonnais. Je me souviens que quand je me réveillais en pleine nuit à 15 ans, je me relevais pour vérifier que mon chien était bien couché sur mon tapis de lit, et c'était lui d'ailleurs qui avait fait du bruit en se grattant et qui attendait sagement, le matin, que je libère la place pour qu'il se foute sur le lit. Je me souviens qu'à 25 ans, si je me réveillais, c'était mon impétueux petit bâton qui me réveillait, marquant le démon de midi à son cadran solaire à la recherche d'une lune, et je devais compter sur mes doigts pour le calmer. Je me souviens qu'à 35 ans, si je me réveillais, c'est parce que mon téléphone avait sonné. Ah, une vraie sonnerie à l'époque, le truc a réveillé tout l'immeuble. C'était elle qui m'appelait sans doute, celle qui n'était pas encore ma femme, mais qui savait que j'allais être son mari, envie de causer à 2h du matin. Je me souviens qu'à 45 ans, si je me réveillais au milieu de la nuit, c'était à cause des enfants. Non qu'ils se soient eux-mêmes réveillés, bien au contraire. Ils dormaient comme des loirs. Mais je pensais à eux. On fait quoi si le FN remporte la présidentielle? Je me souviens qu'à 55 ans, je me réveillais au milieu de la nuit, immanquablement, donc à 3 heures. Je maudissais ma prostate envahissante, je maudissais les grains de la litière du chat sur lesquels je marchais pour aller jusqu'aux toilettes, mais surtout, je me recouchais trop heureux, j'avais encore 3 heures de sommeil devant moi. Je me souviens qu'à 65 ans, si je me réveille au milieu de la nuit, je remercie ma prostate. Si je me réveille, c'est que je suis vivant. Je soulage ma vessie. Je me recouche en fixant la nuque d'Esther. Après avoir regardé la pendule, l'avoir dédaignée du regard, toi, tu ne m'auras plus. Je me souviens que Dominique, croix en bois autour du cou, chevelure de Jésus-Christ, Bible en papier ciclé sous l'oreiller, sandales de cuir et jean effiloché, avait décidé de rejoindre en 83 le pèlerinage qui se rendait à Chartres. Après 10 kilomètres entourés de crânes rasés et de rangers, il avait fait demi-tour et était retourné prier avec ses parents. Je me souviens que les places numérotées sont réservées par priorité aux mutilés de guerre, aux femmes enceintes, aux aveugles civils, etc., et que par la vertu de quelques grattages de peinture, on pouvait transformer ça en places érotiques et en les mutilés de guerre devenaient des utiles du cul. Je me souviens que, dans son jardin, mon grand-père avait installé ses anciennes fenêtres à espagnolettes horizontalement sur des châssis en bois pour faire pousser sous ses serres rustiques des salades, des radis et des tentatives de culture d'asperges. Je me souviens que j'avais été surpris de découvrir que l'illustrateur des bibliothèques vertes et rose, Jean Sidobre pour la série des Alice du Club des Cinq des années 70 et des GP Rouge et Or, était la même personne que le J. Lewis des BD érotiques Lise et Bette que je feuilletais au rayon librairie du printemps. Je me souviens que le réveil de Céline sonnait tous les matins à 6h07, même le week-end, même si elle ne partait de chez elle qu'à 8h30. Elle n'avait touché aucun des réglages du radio-réveil depuis le matin où José s'était levé à 6h07, comme tous les matins, pour partir sur un chantier à 6h50, comme tous les matins, couler du béton, comme tous les matins, et être percuté par une benne, comme cet unique matin-là, le dernier de sa vie.
Truc et ficelle, troc et combine, de Neuchâtel aux Philippines, fut en flanelle sur Moleskine, de grand hôtel en limousine, polichinelle, voyage en Chine, t'as du nickel, j'ai des usines, t'as du platine, mais pas de bretelles, ton archipel pour ma turbine, tu pousses ton fou, je te prends ton roi, ah. Toi t'as Cuba, moi ton Bouctou, tu prends le Pérou, moi l'Angola. Truc et ficelle, troc et combine, d'Aix-la-Chapelle à Constantine, du grand cocktail où l'on badine, à la demoiselle très très câline, qu'à des roussels à trois vitrines, des caravelles et de l'aspirine, t'as des cervelles qui t'enquiquinent, tu démantèles, moi j'endoctrine, et si je recule mon cavalier, tu prends mon pion mais moi ta tour, si je te laisse faire à Singapour, ça fait rentrer 1000 tonnes d'acier. Truc et ficelle, troc et combine, de Compostelle à Tien Tsin Tsin, de grands cartels en saccharine, de clientèle en cocaïne, fais mes l'usine en Israël, t'as des diesels mais pas de benzine, j'ai de la farine, t'as pas de cheptel, de colonel pour ta ballerine, tu pousses ton fou, je te prends ton roi, t'as Panama pour faire joujou, touche au papou, je prends l'Ouganda, truc et ficelle, troc et combine, de Neuchâtel aux Philippines, fut en flanelle sur Moleskine, le grand hôtel en limousine, Papa Noël en Palestine, t'as de la Javel, j'ai pas de piscine, t'as des rebelles qui se mutinent, un caramel, une carabine, et si j'avance un peu ma reine, te v'la bloqué sur les deux cases, un incident près du Caucase, échec et mat à moi le Yémen, truc et ficelle, troc et combine, truc et ficelle, troc et combine, truc et ficelle, troc et combine.
Troisième semaine de suite que je vous diffuse un petit titre de Gilbert Lafaille pour vous... Un petit titre, non, truc et ficelle. Pour vous signaler que Gilbert Lafaille ne chante plus, mais écrit toujours des sconches, comme il y avait à une époque, et des pièces de théâtre. Et là, j'ai d'entre les mains Mardi Gras, sa nouvelle pièce de théâtre. Elle n'est pas montée sur scène, mais justement, si ça vous intéresse, si vous êtes sept personnages en quête de pièces, et ben voilà, et un petit extrait, histoire de situer un peu l'esprit de cette soirée entre Madame Rotary, le professeur, la fée du logis, quelques invités et la bonne. C'est du texte de théâtre. La fée du logis, qu'est-ce que c'était, Yvonne, la bonne ? Ce sont les boueux, madame, pour les étrennes. Ils ont les calendriers, il y a des chatons, un chalet sous la neige et des chiots dans un panier. La fée du logis, les boueux, mais ce n'est pas l'époque ni le moment, voyons. La bonne, c'est comme on veut, c'est le geste qui compte. La fée du logis, mais vous avez vu l'heure ? La bonne, ils disent qu'ils sont passés à Noël, mais qu'on ne leur a pas ouvert, qu'ils font leur métier difficile et qu'ils ne gagnent pas beaucoup, et que c'est avec les calendriers qu'ils arrondissent leur mois et qu'ils peuvent offrir des jouets à leurs enfants. La fée du logis, non. La bonne, ils disent aussi qu'avec ce froid, le travail est pénible et qu'un peu de solidarité ferait du bien à tout le monde. La fée du logis, ils ont dit ça. La bonne, oui madame. La fée du logis, c'est un peu fort, il ne manque pas de toupet cela. Nous n'étions pas là à Noël. Nous étions dans l'Indre, chez ma sœur. Ce n'est pas ma faute s'ils ont trouvé porte close. Il me semble que j'ai le droit de m'absenter quelques jours, non. Et pourquoi ce soir? Le temps des étrennes est passé. Un temps? Elle hésite. Enfin, il faut bien que ce travail se fasse. Elle va fouiller dans une petite boîte sur un meuble. Tenez. Elle donne trois pièces à la bonne qui va pour ouvrir. Attendez Yvonne. Est-ce qu'ils n'ont pas fait grève l'an dernier ? L'amiral, si, monsieur Rotary. 15 jours, une belle pagaille. Madame Rotary, ah Gisèle, c'était affreux. On ne savait plus où mettre nos sacs. Il y avait des sacs. Mais des sacs, c'est bien simple, il y avait des sacs partout. Et cette odeur, une odeur pestilentielle. L'amiral entre ses dents, une bonne reprise en main, on n'en parlerait plus. La fée du logis, revenez Yvonne. La bonne revient, elle lui reprend deux pièces. Pour la grève, un ton. Et prenez plutôt le chalet sous la neige. Voilà, ça c'est un petit extrait de Mardi Gras, nouvelle pièce de Gilbert Lafaille, si vous êtes intéressé. C'est édité aux éditions Execo. Dessous de scène, magazine de créatures radiophoniques, cette semaine, c'est plutôt début de mois, donc j'aperçois Ariel, Elsa, Joelle, donc avec des textes. J'aperçois aussi Laurent, donc on va avoir un invité. Ici, les studios, à vous, les studios.
Eh bien... Nous pouvons dire qu'aujourd'hui, la France est en deuil. Bernadette nous a quittés. Qui était Bernadette ? L'épouse de Chirac, 93 ans. Bon, elle a bien vécu, elle a vécu dans son château, très très bien, entourée par toute sa famille. Enfin bref, quand ils rejoignent le Jaco là-haut, ils vont pouvoir faire des parties de billard ensemble. Bon bref, c'était une connerie, comme d'habitude, que j'en sors. Ce qui n'est pas une connerie, ce sont les textes de Patrick Denis et aussi les textes de Philippe Forcioli, voilà, que je lirai tout à l'heure.
Alors, les poèmes à dire choisis par Daniel Gélin et qui seront suivis selon le temps imparti par quelques pensées de Pierre Perret.
Je vais là.
À mon cas, pour une occasion de 12 juin 2026, les 80 ans de l'anniversaire de la République italienne, j'ai porté quelque chose d'un peu plus différent, c'est-à-dire un tutoriel sur les usances italiennes et un tutoriel pour les touristes qui vont en voyage en Italie.
Bonjour Laurent, et bien voilà, premier samedi de chaque mois, le deuxième aussi avec un invité qui s'appelle Tiziano Samaro, ça fait très très italien justement, hein. Alors on va un peu parler de tes origines et puis surtout de ce projet, Triton, avec un deuxième album, A Season of Pandemonium, et en plus avec un très très beau dossier de presse, très très clair, très informatif sur ce projet, un projet particulièrement hors des normes. Voilà, alors je vais commencer la séquence, cher Nicolas. Alors toujours merci à Nicolas de m'inviter pour ces deux séquences de 40 minutes. Alors Tiziano, on se rencontre pour la première fois, mais on se connaît par le téléphone, on se connaît par une amie qui s'appelle Sophie, qui est artiste peintre, que je connais depuis quelques années, et je la connais parce qu'elle est une grande amie d'une artiste polonaise, une artiste bilingue, parfaitement bilingue, Justyna Bacz, qui est venue dans ce studio. Et j'apprends depuis quelques deux jours qu'il est fort possible qu'elle se produise à Paris, enfin, comme je l'avais souhaité, à Publico à la rentrée. Déjà, en attendant une escale dans un organisme polonais à Paris. Voilà, c'est dans les prévisions. Et donc, elle ne peut pas être à Paris en ce moment, mais elle nous écoute. Voilà, elle s'appelle Justyna Bacz. Donc voilà comment on a pu faire connaissance et comment j'ai écouté cet album. Je pense que c'est la première fois dans cette émission depuis, eh bien, ça fait plus de 10 ans déjà. Hein, le temps passe très vite. On a eu ici Nazaré Pereira, Adama, on a eu beaucoup, beaucoup de musique du monde. Et là, on a avec Tiziano Samaro, on a... Alors, les définitions sont toujours changeantes. Métal progressif, rock métal, ça dépend des périodes, puisque justement, ce disque, ton premier album, c'était il y a déjà 10 ans, Tiziano. 10 années déjà, non? 2016?
Avant Triton, oui.
Avant Triton?
Avant Triton.
Ah oui, Triton. Alors Triton, on va épeler, c'est T-R-Y-T-O-N.
Oui.
Et on peut aller donc avec T-R-Y-T-O-N sur Instagram, on peut tout regarder.
Tout à fait, Triton Band, vous le trouvez.
Voilà, et Bandcamp également pour l'album.
Tout à fait, voilà. Via le label qui s'appelle The Hills Are Dead Records, qui s'est occupé de faire une édition spéciale de l'album.
Bon, donc déjà, on peut déjà... Oui, c'est disponible, hein, Deezer, Spotify, YouTube et les plateformes de streaming digital. Donc, cet album, pour cet ensemble, parce que vous êtes trois, en tout cas, la base, c'est
oui,
trois.
À la base, c'est trois.
Bon, alors, j'ai les noms sous les yeux. Bien sûr, Frédéric Cobel, synthétiseur, piano, basse, synthé. Rimal Tarba, drums, percussion. Et donc, bien sûr, Tiziano Samaro, composition, guitare synthétique. C'est bien ça?
Tout à fait.
Et la basse. Et là, vous avez invité quatre collaborateurs. Alors, j'étais assez content parce qu'il y a un instrument de musique traditionnelle, c'est l'oud avec Damien Sarret.
Absolument.
Pierre Martinet au flûte.
Tout à fait.
Michel Villarroel, violon et alto. Hein, c'est quand même très très bien. C'est marqué en anglais, mais on connaît que viola, c'est l'alto. Et bien sûr, le violoncelle par Pierre-Emmanuel Chartron. Ça, j'avais déjà entendu ce nom dans le milieu. Peut-être aussi de la chanson, je pense qu'il a dû faire pas mal de choses. C'est un nom qui dit quelque chose. Donc déjà, quatre invités, trois, le chiffre 7. Bon bah 7, ça devrait nous mener, voilà, c'est un cycle déjà. Alors cette musique, c'est toi qui es le compositeur de tous les morceaux, Tiziano.
Oui, tout à fait.
Alors,
exactement.
Comment ça se passe, la composition ?
Alors,
l'inspiration.
L'inspiration. L'inspiration vient du fait que il est arrivé. Enfin, d'un point de vue musical, je suis au croisement de deux cultures, c'est-à-dire que j'ai pratiqué ce qu'on appelle les musiques actuelles. Étant jeune, les musiques actuelles amplifiées dans l'univers du rock, du métal. Après, d'un point de vue académique et par un intérêt très fort aussi, je suis allé vers le jazz pendant de nombreuses années. Et en fait, Triton, c'est la volonté en fait, de faire tomber des barrières, de pouvoir faire rencontrer de manière, comment dirais-je, pas de manière... comment dirais-je, instantané, mais de manière pérenne, de manière cohérente, effectivement, des univers qui peuvent et qui doivent se rencontrer. C'est-à-dire que je peux citer dans mes influences autant Miles Davis, John Coltrane, que je peux citer Slayer ou Sepultura, ou des univers, effectivement, de musique qu'on va qualifier d'extrême. Pour la raison très simple, qui est que je pense que c'est des musiques qui repoussent les barrières, qui font fi de la question commerciale et qui se posent effectivement dans une perspective qui est une vraie perspective artistique, en fait. C'est-à-dire que je pense que, enfin, tout le monde le sait, tout le monde le comprend, la musique est un art, mais depuis... on va dire le milieu des années 1950, avec l'émergence effectivement de ce qu'on appelle les musiques populaires, c'est un art qui est sous une pression importante de ce qu'on appelle le business, de ce qu'on appelle l'économie de la musique. Et comme toute forme d'art, effectivement, c'est un art qui est sous la pression effectivement du capitalisme marchand. Et je pense que en ce qui concerne la musique, c'est... Alors, si vous prenez la peinture, la sculpture, vous allez aussi avoir un marché de l'art, etc. Mais dans la musique, vous vous retrouvez effectivement dans quelque chose où beaucoup d'artistes ne vont pas au bout de ce qu'ils souhaitent faire pour pouvoir plaire à une certaine forme d'attente, on va dire, qui est imposée par le marché de l'art.
Ce serait un peu une autocensure.
Exactement. Exactement. Avec Triton, j'ai justement décidé de ne pas me poser cette question-là. Depuis que je fais de la musique, je souhaite faire de la musique pour pouvoir créer ma musique, sans me poser la question, ni la question de quelle barrière esthétique, ni la question de ce que peut attendre, effectivement, le marché dans lequel j'évolue. Donc j'ai décidé, voilà, de mener ça à bien. Donc ça fait des années que j'écris, je compose, j'enregistre, je fais mes clips vidéo et comme tout le monde j'essaye de me battre pour trouver une place effectivement pour cette musique parce que j'y crois profondément.
Alors trouver sa place, oui, sur un marché, hein, c'est ça le plus difficile, trouver un stand pour exposer sa création.
Absolument.
Parce qu'effectivement, comme tu viens de le dire, le créateur doit, dans son être profond, il doit s'affranchir. Il doit s'affranchir de toutes les obligations commerciales, puisque sinon c'est une sorte d'enfermement. Beaucoup s'enrichissent dans l'enfermement, pas mal, même beaucoup. Et d'autres, eh bien, ils s'enrichissent déjà par leur création. L'important, c'est d'avoir toujours l'envie de créer.
Absolument.
Et d'avoir toujours un public qui permette de tenir debout et de construire des projets. Là, par exemple, un album, bon, là, ça a dû te prendre plusieurs années, en tout cas, pour faire cet album, pour le construire, pour le...
Deux ans.
Pour 2 ans, oui, c'est pas mal, déjà, oui. Et puis aussi, eh bien, s'entourer de musiciens, on va dire fidèles, qui restent attachés à un projet.
Tout à fait.
Ça, c'est pas facile non plus à fidéliser.
Absolument.
On connaît l'histoire de groupes qui ont éclaté pour des questions d'ego, des questions de gros sous, des questions d'image. Il y a beaucoup comme ça. Et d'autres qui ont, on va dire, cette chance qui n'en est pas une, de s'inscrire dans la durée.
Absolument. Absolument.
Alors c'est ce qui se passe pour Triton là.
Oui,
comme,
c'est-à-dire que c'est bien. C'est-à-dire que il y a eu une évolution effectivement des musiciens. Donc moi je suis resté effectivement le cœur de ce projet, mais j'ai réussi à tenir la barque et à faire en sorte effectivement d'arriver sur un deuxième album et c'est pas fini. C'est-à-dire que ça va continuer. Je suis déjà à côté de la promotion que je suis en train de faire autour de cet album, il y a déjà effectivement des réflexions sur la suite. Donc voilà,
il y a toujours une projection pour l'avenir.
Tout à fait.
Toujours.
Tout à fait.
Est-ce qu'il y a des concerts sur Paris même ? Est-ce
que ça... Alors pas actuellement.
Pas facile. Hein.
Pas actuellement. Mais c'est vrai qu'il y a eu une période où il y a eu beaucoup de concerts. Actuellement, enfin surtout sur ces deux dernières années, parce que je suis comme tout le monde, étant mon propre manager, entre guillemets, j'ai une quantité de temps qui est limitée. Et donc, j'ai pris la décision, on va dire, stratégique, comme beaucoup de groupes ou de projets peuvent être faits, de me concentrer vraiment sur l'album. Et quand je dis l'album, c'est-à-dire tous les aspects de l'album, de la composition jusqu'à la pochette, jusqu'à la vidéo, etc. Donc effectivement, j'ai mis un petit peu de côté les concerts, mais c'est quelque chose qui reviendra. Je veux dire, il y a beaucoup de groupes qui procèdent de cette manière-là, par période.
Alors on va écouter un titre, le titre numéro 2. Je l'ai choisi tout à fait par hasard. Alors, il est écrit un petit peu en anglais et un petit peu dans une autre langue. Pas en anglais, mais en espagnol, veux-je dire. C'est la Révolution. Uh-huh. Et Altahua. Alors, Altahua, est-ce que peux-tu nous dire un peu ce que c'est ? Parce que là, il s'est passé des choses dans certains pays arabes, justement.
Oui, voilà. Tout à fait. La Révolution. En arabe, en fait. C'est-à-dire que c'est un titre que j'ai composé au moment des printemps arabes, qui à l'époque n'avait pas été mené à bout. Et je l'avais mis de côté, j'étais parti effectivement sur d'autres choses. Et effectivement, il y a 2 ans, avec le contexte aussi politique, international, que chacun connaît, dramatique, notamment en Palestine, j'ai effectivement décidé de mener ce titre jusqu'au bout. Et l'idée de ce titre, c'était effectivement de faire un dessin, parce que l'art, effectivement, c'est une représentation. On se renvoie le réel dans un miroir. De ce à quoi, je dis, alors, effectivement, sous une allégorie musicale, on va dire, ce à quoi les peuples aspirent et doivent aspirer, en fait. C'est-à-dire, effectivement, un changement radical pour l'émancipation du bien commun, pour l'émancipation collective, effectivement, des gens.
antenne, me dit Nicolas, ben voilà, qui découvre totalement, comme les auditeurs de Radio Libertaire, cette musique, comme moi-même d'ailleurs, et ça m'a beaucoup, beaucoup intéressé d'apporter une touche nouvelle dans la programmation musicale, où il y a ici de la chanson française, chanson internationale, il y a des instruments traditionnels, de la musique traditionnelle parfois, et la première fois, cette fusion, ce jazz fusion. Alors, moi, jazz fusion, ça me rappelle un groupe que j'ai énormément apprécié, c'est With a Report. Ça doit peut-être te parler.
Bien sûr.
C'est déjà le nez en l'Hirtal, mais c'était quand même des beaux débuts. Et à l'époque, sur une radio nationale qui s'appelle toujours France Musique, eh bien, il y a un producteur qui diffusait du jazz fusion. C'était pas courant. Mmh. Ça a dû faire trembler les puristes. Il y en a toujours partout. Et ça fait un peu éclater les barrières. Alors là, on vient d'écouter Al Tarwa, donc La Révolution. Donc, c'est quand même un morceau qui date de plusieurs années, hein, déjà, tu nous l'as dit.
Oui,
hein.
La base, ouais, oui. Ouais, elle date de 2011,
voilà.
2011, tout à fait.
Oui, oui. Donc, cette musique, cette composition qui accompagne les mouvements de l'histoire, c'est un peu ton ressenti aussi par rapport à une situation qui peut se reproduire, mais à l'époque il y avait cette notion d'espoir, et puis la musique elle traduit aussi cette notion de souffrance, de mal-être.
Absolument.
Et elle tente, bien sûr, les musiciens tentent de donner l'espoir, de donner une lumière dans l'ombre, puisque l'ombre est un petit peu partout. Alors donc ce titre, c'est le numéro 2 de cet album donc en anglais, Season of Pandemonium. Alors, Season of Pandemonium, une saison de pandemonium. Tu peux rappeler le mot pandemonium, parce que c'est pas un mot qu'on emploie beaucoup. Oui. Il n'est pas connu certainement par certains jeunes, certainement. Les lycéens, les collégiens, on leur dit pandemonium. Ça n'a pas trop leur parlé. Et donc, voilà, c'est bien qu'on parle aussi d'un titre, parce que trouver un titre, c'est déjà la démarche artistique, parce que c'est quand même l'image qui est là, qui va se véhiculer à travers le monde.
Alors, le pandémonium, donc, c'est la notion, effectivement, de grande assemblée des démons, c'est-à-dire, effectivement, toutes les forces du mal qui émergent des entrailles de la terre, des enfers, etc. Et le pandémonium, c'est aussi un splendide tableau de John Martin, qui se trouve au Louvre d'ailleurs, qui est à l'origine de la pochette. C'est-à-dire que la pochette est une variation, je ne sais pas, le mot me manque pour dire, enfin une réinterprétation, on va dire, moderne, radicale, de ce tableau. Et c'est lorsque j'ai vu ce tableau, il y a 2 ans, que j'ai eu, entre guillemets, l'inspiration pour, effectivement, partir sur la création de cet album. Et c'est aussi lié à, effectivement, des questions politiques, c'est-à-dire que, pour moi, le pandémonium, c'est, effectivement, la saison du pandémonium, c'est ce qu'on est en train de vivre actuellement. C'est-à-dire, c'est Donald Trump, c'est le génocide en Palestine, c'est toutes ces souffrances, effectivement, ces menaces sur Cuba, sur l'Amérique du Sud, c'est toutes ces souffrances, effectivement, qui sont pour moi le pandémonium. De la part de gens qui, justement, se veulent les chantres d'une certaine morale, et qui, en fait, sont pour moi les vrais démons. Je préciserai une dernière chose, d'ailleurs, lorsque le titre, alors je ne sais pas si on aura l'occasion ou pas de l'écouter, mais en tout cas, le titre éponyme, donc Season of Pandemonium, ouvre par le bruit, effectivement, d'un hélicoptère militaire et qui, effectivement, on entend effectivement des militaires qu'on suppose anglo-saxons, américains, parler, et ensuite on entend une voix, effectivement, démoniaque qui dit I am the devil. Et donc, l'hélicoptère militaire n'était pas prévu. À la base, il ne devait y avoir que la voix du démon. Et en fait, c'est au moment du kidnapping de Nicolas Maduro que j'ai décidé de rajouter ça. Non pas que je sois un spécial fan de Nicolas Maduro, mais là n'est pas la question en fait. La question c'est effectivement, j'ai été extrêmement choqué de me dire qu'un État, qu'on nomme ni plus ni moins un État impérialiste, et même on pourrait presque dire ultra-impérialiste dans la manière de se comporter, puisse envoyer effectivement comme un commando et kidnapper un chef d'État, quoi qu'on pense de ce chef d'État. Ça m'a extrêmement choqué et en fait... J'ai relié ça, effectivement, à la question de ce titre. Je me suis dit, je dois rajouter quelque chose. Et donc, voilà, le sous-entendu, c'est le sous-entendu que j'ai décidé de placer.
Eh bien, on va écouter A Season of Pandemonium. C'est tiré de cet album. Et c'est l'outil. We'll be right back. des radios sans Dieu, sans maître et sans publicité, ce qui ne vous empêche pas de nous envoyer quelques bons de soutien pour que l'on continue à émettre dans les meilleures conditions possibles. Voilà, donc émission Dessous de scène avec Nicolas qui est, comme je le dis, notre très estimé grand timonier, avec bien sûr... mes camarades qui sont là autour de moi et qui à 16h30 vont vous lire une très belle sélection de textes politiques ou de poèmes, que ce soit des poèmes, des textes d'humour aussi, ou des textes de toutes les couleurs, comme Nicolas aime à les entendre. Et notre invité aujourd'hui, il s'appelle Tiziano, alors j'appelle son nom pour les internautes, T-I-Z-I-A-N-O, et Samaro, c'est S-A-N-O. 2MA, 2RO. Il y a toujours 2-2. Donc, c'est la dualité parfaite. Et donc, voilà, nous avons un créateur. J'ai donc découvert son univers très récemment, puisque voilà, cette dame que je connais, qui est une peintre assez extraordinaire, je suis allé dans son atelier à Cachan et j'ai vu des grandes, grandes merveilles. Eh bien, là, l'artistique, eh bien, il est dans une continuité, justement, contrastée, justement, par rapport à cette peinture qui, moi, me rappelle la Renaissance italienne, voilà, quelque chose de très pastel. Et là, on a une musique qui est ancrée dans une réalité, là, on va dire quand même, oui, politique. Voilà, une perception du monde quand même qui est différente, parce que la peinture est une perception du monde, justement, puisque justement une photo, une peinture inspire la musique, inspire un roman, inspire un poème, il y a toujours cette circulation entre les expressions artistiques, et là on en a bien sûr plusieurs exemples, l'exemple dont tu parlais tout à l'heure justement, par rapport au visuel de pochette. Mmh. Voilà, là c'est vrai que c'est un visuel, on remarque, l'œil s'accroche, on sait qu'il y a un message ici qui est là, voilà, on le devine, on sait qu'il y a, une certaine... il y a du signifiant, et pour le décrypter, eh bien, il faut écouter cet album physique, mais aussi cet album qui est donc sur les plateformes, c'est important, c'est donc Triton, je répète pour les internautes, T-R-Y-T-O-N, Triton. Voilà, c'est une... très belle découverte pour moi. C'est pas mon univers, disons, habituel. Moi, je suis plus chanson française, chanson même de revendication, parce que ici à Radio Libertaire, on a un patrimoine chanson assez extraordinaire. Musique traditionnelle, bien sûr aussi, les musiques qui sont en marge. Et puis, ben voilà, moi j'ai vu sur scène Chet Baker, voilà, je peux le dire quand même. C'est quand même quelque chose. Et voilà.
Je voudrais juste préciser une petite chose. On a effectivement décidé avec le label de faire juste un petit temps d'attente avant de mettre ça sur les plateformes type Spotify, etc. Parce qu'on estime qu'il faut d'abord défendre effectivement l'objet via le label. C'est un label indépendant. Et donc on pense que c'est quand même important effectivement de construire le réseau d'écoute autour de ça. Et au bout d'un certain temps, effectivement, on va le mettre sur les réseaux plus généralistes.
Donc, je pense que c'est une très bonne ouais. démarche. Hein. D'abord l'objet et ensuite une grande diffusion. Mmh. On va rappeler le nom de ton label.
Ouais, The Hills Are Dead Records. Bon. Et ce qui est important, c'est qu'on le trouve sur Bandcamp. Donc, pour les personnes qui connaissent ou qui connaissent pas, Bandcamp, c'est une plateforme de diffusion pour les musiciens, les groupes et les labels indépendants. C'est même la principale. Donc, The Hills Are Dead ont une page dans laquelle on peut trouver leurs sorties. Et effectivement, on trouve donc A Season of Pandemonium dessus depuis hier.
Depuis hier, voilà. Ça tombe mieux que très bien. Hein. Radio Libertaire qui t'accueille en ce 6 juin 2026 pour cet album, donc justement A Season of Pandemonium, Triton. Hein, je le répète pour voilà ceux et celles qui prennent l'émission en cours. Je rappelle qu'on peut écouter les émissions de Radio Libertaire pendant un an. Moins un jour, le jour de cette diffusion. C'est en ligne, donc Radio Libertaire, c'est très facile à faire, même moi j'y arrive, donc tout va bien. Alors, cet album, Le temps presse, il nous reste... Est-ce qu'on a le temps d'écouter? Non, on n'aura pas le temps d'écouter un troisième morceau, ça fait déjà... Voilà, on a pu déjà passer deux morceaux, c'est déjà bien. Alors, je te laisse conclure, Tiziano, par tout ce qu'on n'a pas pu se dire en 40 minutes, même pas 20 minutes. Maintenant, je te laisse, pour terminer la séquence, dire des choses que tu... des questions que je n'ai pas posées et des choses qui sont là, qui voudraient s'exprimer juste maintenant.
J'aimerais effectivement parler simplement d'un titre que vous aurez du coup l'occasion d'écouter lorsque vous irez sur le Bandcamp de The Hills Are Dead. C'est le titre Tree, donc l'idée de cette notion de nature, d'arbre, qui est effectivement, pour aussi partir sur une note plus positive, hein. On n'est pas seulement effectivement dans la dénonciation de la, comment dirais-je, de tout ce qui peut être sombre dans le monde, justement. Tree, je l'ai écrit effectivement après être devenu père. J'ai eu à cœur d'écrire un titre sur la notion de filiation, la notion effectivement de qu'est-ce que la transmission, de rendre aussi hommage à, et ça aussi par contre je vais forcément rejoindre les propos qui ont été dits tout à l'heure, rendre hommage aux millions de personnes qui, aux familles, aux gens qui vivent leur vie quotidienne de manière simple, qui construisent leur petit bonhomme de chemin face effectivement à la démesure que les classes dominantes essayent d'imposer au monde. Donc Tree, même si c'est un titre instrumental, il a cette dimension poétique qui pour moi est importante.
Alors c'est un titre, il est très possible que je puisse diffuser dans une autre émission de Dessous de Scène, justement. Je vais m'en souvenir. Alors c'était notre invité Tiziano Samaro, avec l'accent. Dernière petite chose, oui, on a encore 43 secondes. Alors, c'est un nom d'origine italienne, Tiziano Samaro.
Oui, tout à fait, mon père est italien.
Voilà, et du côté maternel, je sais que c'est plutôt Pologne.
C'est la Pologne, oui.
Voilà.
Tout à fait.
Bon, ben voilà, ça y est, on a...
L'écriture de Triton, avec un Y, c'est effectivement l'écriture polonaise.
Ah oui, voilà. D'accord, ben voilà.
Je trouve ça, pour dire ça de manière très simple, je trouvais ça joli avec un Y, lorsque j'ai choisi le nom du projet, voilà.
Alors nous avons un intervenant avec ce bel accent italien, voilà, fan de football, voilà, on va l'entendre tout à l'heure. Nicolas.
Eh bien justement, Joël était prêt à prendre la parole?
Oui. Ok, alors... Disons que pour aujourd'hui, comme je dis, je fais un texte un peu plus soft respect à les autres, de lesquels que je parle d'actualité, de politique. Aujourd'hui, c'est une chose un peu plus culturelle, en occasion des 80 ans de la République italienne. L'usance da connaître quand tu es en voyage en Italie. L'Italie est un pays d'une grande richesse culturelle et régionale. Il peut être difficile pour un étranger de se retrouver parmi les traditions et les usages en vigueur dans les différentes régions, qu'il est d'ailleurs difficile de recenser précisément. Cependant, se joue dans une grande ville comme Rome, Milan et Naples, ne devrait pas peser des problèmes à jour pour se comporter sans susciter de malentendus, car les usages et les tabous ils sont globalement comparables à ceux des autres pays européens. Les Italiens ont l'habitude de se toucher fréquemment en discutant entre amis, avec des tapes dans les dos et parfois même une petite tape amicale. Si l'on revoit quelqu'un après un certain temps, il est courant de lui faire la bise. Du moins, ce costume est répandu dans le centre et le sud du pays. Dans le nord, notamment en Triveneto, elle est perçue avec méfiance et rarement rendue, sauf avec des personnes originaires du sud. Ma se plus fréquente dans les grandes villes du nord-est, fortement marquée par l'influence de leur origine suite aux migrations des années 1960. L'anglais est assez répandu en Italie, surtout dans les centres et le nord du pays, et particulièrement chez les jeunes, 18-35 ans. Vous ne devriez donc pas avoir de difficultés majeures à communiquer. En revanche, établir une communication, même basique en anglais, est beaucoup plus difficile dans le sud. L'italien, bien que parlé de façon presque uniforme sur tout le territoire, présente de nombreuses variations d'intonation et d'accent selon les régions, voire les villes. Les Italiens sont très fiers de leur dialecte, surtout dans les petites localités. Il n'est pas rare de rencontrer des gens qui préfèrent parler leur propre dialecte plutôt que l'italienne. Il est donc conseillé d'apprendre quelques expressions de base de la région que vous visitez, une attention qui sera grandement appréciée par la plupart des habitants. Plus vous vous dirigez vers le sud, plus les gens ont une conception du temps plus détendue. Arrivez avec 10 ou 15 minutes de retard et courant, surtout dans le sud. L'Italie est un pays où la présence séculière de l'Église catholique se fait sentir partout, même chez les plus jeunes, bien que légèrement moins marquée, mais tout de même nettement plus importante que d'autres pays européens. Il est donc recommandé de ne pas heurter la sensibilité religieuse des Italiennes, en particulier dans le sud. Les jeunes générations du nord et de certaines régions du centre de l'Italie abordent la religion avec une relative indifférence, comme en témoigne leur éloignement progressif des mariages religieux et des sacrements. Les Italiens sont réputés pour leur accueil chaleureux et leur bonne humeur, et sont connus pour leur propension à plaisanter avec l'étranger, même si cette attitude peut parfois être perçue comme une forme de taquinerie. Quoi qu'il en soit, pour éviter que la situation ne dégénère, il est préférable de ne pas entrer dans le jeu plus longtemps que nécessaire et, dans les cas extrêmes, de prendre ses distances avec l'interlocuteur italien si la plaisanterie ne semble pas tout à fait convaincante. En règle générale, plus on va vers le sud, plus les Italiens sont extravertis et inclinés à interagir avec l'étranger. Au nord, ils sont plutôt réservés, mais restent très polis. Fait preuve de la plus grande discrétion lorsque vous abordez avec des Italiens des sujets qui suscitent encore des ressentiments au sein de la population ou qui frôlent les tabous. Évitez de comparer le nord et le sud de la péninsule, ce qui est particulièrement mal perçu dans les Italiens du sud, parfaitement conscients de leurs difficultés économiques et socioculturelles par rapport au sud du nord. De même, évitez toute plaisanterie politique, compte tenu des tensions récentes entre le gouvernement et les citoyens, et n'évoquez pas constamment les sujets sensibles en Italie, tels que la mafia, Silvio Berlusconi, l'affaire Schettino, la crise économique, ont eu autres sujets susceptibles de donner lieu à des stéréotypes que les Italiennes ont du mal à tolérer. Il est également préférable d'éviter d'aborder la figure de Benito Mussolini, dictateur et fondateur du fascisme italien, qui suscite ancora aujourd'hui des vifs débats. L'immigration et les questions connexes divisent également la population italienne. Enfin, il convient de noter que de nombreux tabous sont d'ordre local et ou régional, ce qui le rend difficile à apprendre pour les non-initiés. Quoi qu'il se soit, la discrétion, quelques plaisanteries amicales avec les passants et le fait de se comporter comme un touriste ne vous causeront jamais de problèmes sérieux. Les Italiens sont par ailleurs très fiers de leur culture et de leur tradition, notamment lorsqu'elle constitue une source de fierté internationale. Même dans ces cas, contenez-vous donc des sourires et de faire un clin d'œil à leur succès dans les demandes d'automobiles, de la gastronomie, du patrimoine artistique, de la mode et du sport, sans faire des comparaisons qui seraient malvenues et inacceptables pour de nombreux Italiens. Par ailleurs, concernant le football, n'oubliez pas qu'en Italie, il est considéré comme une véritable religion et un symbole national. Par conséquent, pour éviter tout incident, abstenez-vous de toute critique et de toute dispute avec les supporters, qui pourront se montrer agressifs s'ils prennent aux trois grands clubs italiens, la Juventus FC, l'AC Milan et le FC Inter Milan. La criminalité dans les grandes et moyennes villes du pays est comparable à celle d'autres villes européennes. La sécurité est globalement bonne. Cependant, dans les petites villes, il est conseillé d'être particulièrement vigilant face aux petits délinquants, tels que les pickpockets et les arnaquettes des rues qui, bien que non dangereux, peuvent s'avérer très gênants. L'Italie a toujours fait preuve d'une grande ouverture d'esprit envers l'homosexualité, notamment chez les jeunes, 18-35 ans, qui ne sont quasiment jamais jugés ni observés à ce sujet. Il est toutefois recommandé de faire attention à la manière et au lieu où certaines attitudes sont exprimées. En dehors de grandes villes, et surtout dans le centre et le sud de l'Italie, l'homosexualité peine encore à être acceptée. et les voyageurs gays et ou lesbiennes peuvent être confrontés à une légère homophobie ou à des regards empruntés de mépris. Le respect de bonnes manières, et particulièrement dans les magasins et les restaurants, est la garantie d'un séjour agréable et témoigne de l'excellente hospitalité italienne. Voici quelques règles de politesse. Lorsqu'on fait des achats de magazines, il est apprécié de dire au revoir et de souhaiter une bonne journée au vendeur. Au restaurant, il est apprécié de laisser un pourboire au serveur, mais ce n'est pas obligatoire. Dans les transports en commun, céder sa place aux personnes âgées, aux personnes handicapées et aux femmes, et en particulier les femmes enceintes, est un geste de courtois et de respect. Voici les costumes qu'un bon touriste devra connaître lors de ses vacances en Italie. Maintenant que nous les connaissons, bon voyage.
Verrà la morte, avrà i tuoi occhi, questa morte che ci accompagna dal mattino alla sera, insonne, sorda come un vecchio rimorso o un vizio assurdo. I tuoi occhi saranno una vana parola, un grido tacciuto, un silenzio, così rivedi ogni mattina quando su te sola ti pieghi nello specchio. Oh cara speranza, quel giorno sapremo anche noi che sei la vita e sei nulla, per tutti la morte a uno sguardo. Verrà la morte e avrai i tuoi occhi, sarà come smettere un vizio, come vedere nello specchio riemergere un viso morto, come ascoltare un labbro chiuso. Scenderemo, scenderemo, scenderemo nel gorgo muti, muti.
Cesare Pavese, interprété par le français toscan de Monaco, Léo Ferré.
Bon, ben, commençons par Patrick Denis. La santé d'une maison est le reflet de l'âme de ceux qui y habitent. Un volet bas, le tic nerveux de la paupière soulage sporadiquement l'œil d'une fenêtre, des habitués du jour. Le porte se met à grincer comme une mauvaise toux. La cheminée refoule dans l'âtre sous l'effet de la tumeur maligne d'un bouchon de suie. L'escalier gémit comme une colonne vertébrale trop sollicitée. Le grenier se peuple de bruits fantasques, pareils aux pensées d'une tête mal assurée. L'eau du robinet se colore de rouille comme une urine suspecte. Une chaise paillée obstrue l'artère du couloir comme un caillot. L'œil de bœuf bée comme un grain de beauté arraché dans la chair du mur. Les journées perdues noircissent de leur carie le dentier du calendrier. Le cancer des bouches se lève à la glu du papier qui pense le lustre. Le bras dévitalisé d'une gouttière s'affaisse sur le ventre de la façade. Les tuiles tombent et s'effritent comme des cheveux malades. L'oubli gangrène les livres de la bibliothèque. L'injure du temps se lit sous les cuirs des fauteuils. Le saut de nuit se fait au pied d'un lit bancal. Une mythologie particulière se révèle au ciel d'un lit désabusé. Parfum éculé en avance, répandu dans la carême fatiguée d'un vieux bateau en mal de port. Cale sèche, transfusion d'urgence, la course d'un enfant, peut-être.
Oui, alors, Daniel Gélin a choisi le poème de Saint Paul Roux pour dire aux funérailles des poètes. Allez bien doucement, messieurs les fossoyeurs. Allez bien doucement, car ce cercueil n'est pas comme les autres où se trouve un bloc d'argile enlincelé de l'ange. Celui-ci recèle entre ses planches un trésor que recouvrent deux ailes très blanches, comme il s'en trouve aux épaules fragiles des anges. Allez bien doucement, messieurs les fossoyeurs. Allez bien doucement, car ce coffre, il est plein d'une harmonie faite de choses variées à l'infini. Cigales, parfums, guirlandes, abeilles, nids, raisins, cœurs, épis, fruits, épines, griffes, cerfs, bêlements, chimères, sphinx, dés, miroirs, coupes, bagues, amphores, trilles, tirses, arpèges, marottes, pans, carillons, diadèmes, gouvernails, houlettes, jougs, besaces, férules, glaives, chaînes, flèches, croix, colliers, serpents, deuils, éclairs, boucliers, buxins, trophées, urnes, socs, cothurnes, brises, vagues, arc-en-ciel, lauriers, palmes, rosées, sourires, larmes, rayons, baisers. Or, tout cela, sous un geste trop prompt, pourrait s'évanouir ou se briser. Allez bien doucement, messieurs les fossoyeurs. Allez bien doucement, car si petit qu'il soit de la taille d'un homme, ce meuble de silence renferme une houle sans nombre et rassemble en son centre plus de personnages et d'images qu'un cirque, un temple, un palais, un forum. Ne bousculez pas ces symboles divers pour ne pas déranger la paix d'un univers. Allez bien doucement, messieurs les fossoyeurs. Allez bien doucement, car cet apôtre de lumière, il fut le chevalier de la beauté qu'il servit galamment à travers le sarcasme des uns et le crachat des autres. Et vous feriez dans le mystère sangloter la première des femmes si vous couchiez trop durement son amant dans la terre. Allez bien doucement, messieurs les fossoyeurs. Allez bien doucement, car s'il eut toutes nos vertus, mes frères, il eut aussi tous nos péchés. Allez bien doucement, car vous portez en lui toute l'humanité. Allez bien doucement, messieurs les fossoyeurs. Allez bien doucement, car il était un dieu peut-être, ce poète. Un dieu qu'on a frôlé sans deviner son sceptre. Un dieu qui nous offrait la perle et l'hysope du ciel, alors qu'on lui jetait le fiel et les écailles de sa table. Un dieu dont le départ nous plongera sans doute en la ténèbre redoutable. Et c'est pourquoi vont-ils, vos outils de sommeil, produire tout à l'heure un coucher de soleil ? Allez bien doucement, messieurs les fossoyeurs. Mais non, ce que vous faites là n'est qu'un pur simulacre, n'est-ce pas ? C'est un monceau de roses que l'on a suivi sous l'hypothèse d'un cadavre, et que dans cette fosse, vous allez descendre, ô trésorier des cendres, et ces obsèques ne seraient alors qu'une ample apothéose, et nous nous trouverions en face d'un miracle. Oh ! Dites, ce héros n'a pas cessé de vivre, fossoyeur. Ce héros n'est point mort, puisque son âme encore vibre dans ses livres et qu'elle enchantera longtemps le cœur du monde, en dépit des siècles et des tombes. Allez bien doucement, messieurs les fossoyeurs. Humble, il voulut se soumettre à la règle commune des êtres, rendre le dernier soupir et mourir comme nous, pour ensuite, orgueilleux de ce que l'homme avait le front d'un dieu, ressuscité devant les multitudes à genoux. En vérité, je vous le dis, il va séant renaître notre maître d'entre ces morts que garde le cyprès avec le sycomore. Et sachez qu'en sortant de cet enclos du temps, nous allons aujourd'hui le retrouver debout dans toutes les mémoires, comme demain sur les socles épars érigés par la gloire. On le retrouvera sculpté dans la piété robuste des humains. Allez bien doucement, messieurs les fossoyeurs.
Merci.
Il aime les ânes tous les ânes parce qu'il aime les chevaux. Et pour lui l'âne est un cheval qui n'apparaît ici. Cette musique, ces paroles, comme elles sont tendres, comme elles sont drôles, et j'aime à me les répéter. Quand c'est l'hiver en mon été, il aime les ânes, tous les ânes, parce qu'il aime les chevaux. Ah, les chevaux de ce poème, il est un tisserand que j'aime. Un drôle d'oiseau dans l'altitude, un doux pierrot en son étude. Et si l'on vous demande qui, vous direz mais c'est Pierre Loup qui l'en a écrit tant de bafouilles. Et c'est de l'huile quand la vie rouille, et pour l'oreillette du cœur, c'est pas méchant, c'est bon moqueur. Il aime les ânes, tous les ânes, parce qu'il aime les chevaux. Et pour lui l'âne était cheval au temps d'un paradis. Tout de bonté et d'innocence, du malicieux esprit d'enfance, dans des chansons, dans des histoires, juste avant de dire bonsoir. La vie va si vite, si vite, au grand galop nous précipite, au feu grillon, petit sabot, le pas, le trot et les grelots. Il aime les ânes. J'aime les ânes, tous les ânes, même s'il lit âne, il réfléchit. Les ânes l'aiment et moi aussi.
Clin d'œil de Philippe Forcioli à Pierre Loucky, qui aime les ânes, tous les ânes. Car ce sont des chevaux qui n'ont pas réussi, si je me souviens bien, effectivement. Oui, mais ils n'aiment pas les cons. Bien, dans quelques minutes sur Radio Libertaire, ça sera Bulle Noire qui recevra Alexandre Courban pour un livre intitulé Place de la Victoire 1936, puisqu'il y a effectivement 90 ans qu'apparaissaient les premiers congés payés. Mais dans l'immédiat, nos dernières pages blanches avec Ariel et Elsa.
Oui. Alors, je chante Chantedi de Philippe Forcioli, un petit poème écrit en automne 1976. Aujourd'hui, le soleil n'est pas à la fenêtre. Il s'est laissé coiffer d'un chapeau gris mouillé, grébouillé de nuages. Il tourne tristement de l'autre côté du plafond en petit soleil bien sage. Petit soleil, mon ami, creuse un petit trou dans l'eau, descends avec l'appui, glisse sur le carreau. Fais-nous le grand nettoyage d'un blanc dimanche de Pâques, nous caresse la peau en petit soleil bien sage. Doucement, prends ton temps, fais durer la prouesse, la promesse d'un jour éclatant au midi, jusqu'au doux crépuscule, s'enflammant lentement dans le calme du soir en petit soleil d'espoir. Dis au moins quelque chose, ne te cache pas comme ça. Je te fais des misères, je ne savais pas. Monsieur l'astre du jour, roi de l'univers, fais-nous la bonté de nous montrer le nez, car la pluie cajoleuse a des propositions qu'il sera difficile de refuser longtemps. Aujourd'hui, le soleil n'est pas à la fenêtre, et la chanson finit dans la pluie.
Quelques pensées de Maître Perret. Il s'est mis à crier comme un qui les a prises. Il s'est mis à crier comme un qui les a prises dans le tiroir du buffet. Il a une gueule à commander de la moutarde avec du foie gras. Elle faisait baver les hommes comme 36 crapauds devant une tarte aux moustiques. Il était aussi mort qu'on peut l'être quand on ne respire plus depuis la veille. C'est le printemps. Cendrillon rêve d'avoir un Jules qui puisse, comme cette foutue pendule, tirer ses 12 coups en suivant. Il est romantique comme une balance de charcutier. Il a plutôt l'air d'une virgule dans Les Misérables que d'un trait d'union dans L'amant de Lady Chatterley. C'était un journaliste qui ne s'était jamais distingué qu'à l'article de la mort. Il demeura aussi introuvable qu'un gauchiste à l'Académie française. Elle avait les seins durs comme un avocat général. Il se sentait abandonné comme un crouton dans la poche d'un curé de campagne. Il avait la conscience chargée comme le radeau de la Méduse.
Allez, encore quelques textes avant notre page blanche, effectivement, puisque notre émission se terminera avec une page proposée par Jean-Marie.
Voilà, alors celui-là, que les oreilles sensibles ne fassent pas trop de bon. Ah, qu'il est bon de chier dans la nature. L'herbe n'est pas aussi piquante qu'on croit. Tout au contraire. Trôner dans la verdure donne à la fesse un lustre somptueux. Les reflets verts tout autour de l'anus se mêlent au bronze qui descend du cul. Ah, comme tu es beau, pépère, quand tu rends à la terre ce que tu as pris, tu le remercies. Ah, comme tu es beau, pépère, quand tu rends à la nature ce qu'elle t'a donné contre un peu de fumier. Ah, qu'il est bon de chier dans la nature. L'herbe n'est pas aussi piquante qu'on croit. Écrit en printemps 1977.
C'était le temps des guitares approximatives, du dandysme marginal, du rêve bleu. C'était le temps des samedis, des matins de la rue de l'Ouest. Quelqu'un cherchait sa vie dans les cafés. Timide, la réserve haletante, l'illumination dissimulée, fou intérieur, dans l'amour de la poésie gaspillée, il était éperdu. Quelqu'un voulait l'aristocratie et la pauvreté. L'alcool nocturne de la rue d'Odessa et la pureté d'un exil de montagne. La sonate subtile et la chanson du métro. la page glacée de la revue de luxe et les mots jetés à la hâte sur un papier d'occasion. La porte océane et les pas perdus. Connaître l'au-delà des réalités visibles et se promener parmi les artistes féconds, les écrivains, les infréquentables. Quelqu'un était l'écho de musique nègre, maigre, des rejetons barbares de la nuit occidentale. Sensuel, graveleux, diamantifère. Des noms couraient sur ses lèvres, comme les messagers fidèles des inoubliables mélodies, des petits miracles à la cour ésotérique du roi Dionysos. Quelqu'un était sur le bord des incertains, dans l'espace inédit des émotions, des impuissances, des échecs, des répétitions, des naïvetés, des apparences, choisissant les masques pour échapper. Quelqu'un s'occupait des grandes choses de l'esprit. Quelqu'un attendait les révélations de l'être et regardait du côté des initiés, des vieilles âmes, des regards d'Orient, de ceux qui ne peuvent pas dire. Quelqu'un ouvrait la porte des silences médiatifs et rencontrait la sagesse trompeuse de l'exotisme, les faiseurs embusqués de l'ultime. Car la vérité n'est pas chose simple, et la poésie, petite affaire, trop s'en soucier égare. Quelqu'un demanda son chemin. Yves Bouin, merci.
T'as bien capté, Buvois, tu libertaire, radio libertaire, on va parler de polar, tu libertaire. Radio Libertaire.
De 17h à 19h,
baby,
ton ami Bob reçoit le gratin des auteurs. Radio Libertaire.
T'as bien capté, bulle noire, tu libertaire. Radio Libertaire. On va parler de Paula. Du libertaire, radio libertaire.
Attention, c'est pas l'heure de 4 heures.
Baby,
faut pas te tromper, les flingues vont sortir des holsters.
Bien capté, bulle noire, sur libertaire,
radio libertaire.
On va parler de polar, sur libertaire, radio libertaire.
On parle de 38,
de calibre 44.
Baby.
Mais bien sûr, tu es sur 89.4.
Radio Liberté.
Radio Liberté.
Radio Liberté.
Radio Liberté.
Radio Liberté.
Radio Liberté. Radio Libertaire sur 89.4.
Bonjour à tous. Aujourd'hui, dans Bulle Noire sur Radio Liberté 89.4, nous recevons Alexandre Courban, qui vient de, enfin, dans les éditions Agulot, viennent de publier le troisième volet de son, une trilogie.
Une saga.
Une saga.
Parce qu'il y en aura cinq,
voilà. Place de la Victoire 1936, c'est le troisième de la série. On t'avait reçu d'ailleurs pour le premier de la série, hein, si je me souviens bien.
C'est exact.
Hein,
Passage de l'avenir, 1934.
Passage de l'avenir, voilà, en 34, puisque 34, 35, rue de l'Espérance, c'était 35, et aujourd'hui c'est 36, et ça tombe plutôt bien parce que c'est un anniversaire cette année 2026, puisqu'on fête les 90 ans du Front Populaire, ça tombait plutôt pas mal. Avant de parler de ce bouquin, on va rappeler aux auditeurs de Radio Libertaire, et de Bulvin en particulier, qui est Alexandre Courban, né en 1971. T'es né en Ardèche ou t'as vécu juste ton enfance en Ardèche?
J'ai simplement vécu mon enfance en Ardèche.
D'accord. Mais sinon, t'étais né dans une grande ville de province, ou une petite ville de province, à l'étranger.
Je suis né à Saint-Ouen, en Seine-Saint-Denis.
Et donc, mais tes parents ont fait le... Ça les emmerdait de rester à Saint-Ouen, ils ont décidé de se barrer.
Pour toute une tas de raisons, on a atterri en Ardèche, dans le village natal de ma mère, quand j'avais 8 ans.
Ah oui, d'accord. Mais c'était pas, vous n'étiez pas parti en communauté en Ardèche en...
Non, pas vraiment. On est plutôt parti dans le cadre d'une communauté disloquée, tu vois.
Ah oui, alors ça, on comprend le principe. Donc vous retrouvez, tu te retrouves à 8 ans. Bah, donc tu avais vécu cette année à Saint-Ouen.
J'avais vécu cette année à Paris, à Chelles également, Seine-et-Marne. Et donc j'ai atterri à l'âge de 8 ans dans le village de ma mère qui était jusqu'alors le village de mes vacances, le village de ma grand-mère maternelle. Donc c'était à la fois un lieu que je connaissais, mais que je connaissais comme le petit Parisien qui venait en vacances, et non pas comme le petit Parisien qui s'installait dans le village qui allait devenir son village pour 10 ans.
Ça t'a fait un choc ou non ?
Énorme. Un choc énorme dans la mesure où il y avait tout un tas de choses, de us et coutumes, de façons de vivre qui ne correspondaient en rien à la période de juillet-août, qui était la période que je connaissais. Et j'ai découvert finalement au fil des années tous les autres mois de l'année, de septembre à juin, avec tout ce qui va dans un village. Et par exemple, un des jeux de mes camarades de classe, la première année, a été de me faire manger un marron d'Inde, puisque à Paris, on mange des marrons, alors qu'en réalité, on mange